Juste une dernière chose sur l'armée, il y a énormément de jeunes qui s'engagent en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'engagent. Il y a des unités qui montent en puissance, ils passent de 300 à 1000 personnes. Ils ont entre 18 et 20 ans, ils sont vraiment là. Il y a des opportunités de témoigner, voilà, ça je voulais le dire aussi. Ils sont là, c'est le moment de le faire. Il y a un général qui m'a dit, il ne faut pas qu'ils repartent sans que vous leur ayez parlé des questions existentielles, des vraies questions qui comptent. Il y a même des officiers qui nous disent ça. Allez les voir, il ne faut pas qu'ils partent de là sans qu'ils aient été touchés par quelque chose qui touche l'éternité. Donc c'est pour dire à quel point on est sollicité pour pas qu'ils partent sans ça. Voilà, une petite graine posée, pose-toi des questions. Et voilà. Alors, Luc 24, je vous prends au verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alors, Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais ils ne le savent pas, ils ne le croient pas encore. Mais il va les voir quand même. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Moi, j'aime bien le verset 19, quoi? J'aimerais bien savoir, leur dit-il, et ils leur répondirent, ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant point trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Apparemment, ça ne suffisait pas. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Je continue. Donc Jésus, il écoute ça. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures en ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. C'est très mystérieux ça, hein? Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors, comme j'ai dit, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il y a des femmes qui l'ont vu, on ne les croit pas. Il y a l'ange qui parle. Et puis Jésus vient lui-même, mais ils ne le reconnaissent pas, donc décidément ça commence à faire. Et les disciples expliquent à Jésus ce qu'ils attendaient de la part du Messie. Donc même après sa mort, ils ont du mal à saisir la portée de son œuvre. Ils sont toujours limités à ce qu'ils pensaient. Donc Jésus leur fait un petit cours de théologie, il leur explique où il est dans les Écritures, que c'est bien lui qui devait venir et mourir. Au verset 28, on voit, c'est assez mystérieux, il allait continuer Jésus, alors qu'ils lui disent, mais reste, on ne sait pas où il allait. Hein, il est ressuscité, il se balade sur la terre. Et puis, c'est vraiment des passages, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je relis juste ces versets. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, rompre le pain dans la Bible, c'est presque une expression consacrée, hein. C'est vraiment qu'on est en train de partager la communion. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et si on regarde un tout petit peu plus loin, Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit sur vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Donc c'est assez curieux, tous ces passages, parce qu'on a un Jésus qui est avec eux, ils auront le pain, il disparaît, il n'est plus là. Alors, les disciples ils vont voir les autres en disant, en fait, il a disparu au moment où il a rompu le pain, et au moment où il dit ça, il réapparaît. Alors ce n'est pas anodin. Et cette idée, ils sont en train de rompre le pain, et à chaque fois, il part, il vient. Peut-être ils se sont dit, si on en parle, il va revenir. Et puis, là, c'est le doute. Moi, j'aime beaucoup ce genre de passage. La paix soit sur vous et saisi d'une grande frayeur. Je vois un décalage complet. C'est pas du tout le but recherché. Hein. C'est presque ironique. Il leur annonce la paix et puis ils ont la trouille de leur vie. Mais il leur dit, voilà, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, il est là en chair et en os. Dieu est esprit, mais là Jésus dit, je suis en chair et en os. Et ce corps, fait de chair et d'os, apparaît, et puis il disparaît. Mais il réapparaît alors que les disciples sont en train d'expliquer que c'est à la fraction du pain qu'il a disparu. Moi je trouvais ça curieux comme passage, je me suis dit, tiens, on va aller essayer de creuser ça. On retrouve évidemment la fraction du pain dans la communauté des apôtres plus tard, hein, évidemment, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Fraction du pain, c'est quelque chose de central dans la vie communautaire des apôtres. Donc comme j'ai dit, ce n'est pas anodin cette expression. Ce n'est pas juste qu'ils cassent sa croûte. C'est qu'ils sont en train de vivre un temps spirituel. Et Jésus, il fractionne le pain et il disparaît. Il se retrouve avec le morceau de pain dans les mains, puis le temps de le regarder, il est où? Où est-il? Alors, je suis tombé sur un autre passage où il est question de rompre le pain, qui est un peu mystérieux, parce que dès que c'est spécifié, dans la Bible, c'est spécifié quand les gens mangent, ils s'arrêtent, ils mangent. Mais il y a un autre passage où on retrouve cette expression un peu mystérieuse. Alors, je vous la livre, je ne sais pas trop comment l'interpréter. C'est quand Eutychus tombe de la fenêtre, parce qu'en fait, il y a un prédicateur qui est trop long, et trop long, s'endormit profondément pendant le long discours. Le sommeil. Il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Ouais, ce sera mieux. Ça marche ? C'est bon ? Ouais. Donc, Eutychus, il tombe, il est mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain. Et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Donc il continue son long discours quand même. Alors, c'est assez curieux. Pourquoi ils mettent cette expression-là? Il rompit le pain à ce moment-là. Alors j'y reviendrai. Et puis il y a un autre passage qui sera peut-être plus explicite sur le fait de rompre le pain. C'est celui-ci. Vous savez, quand ils prennent le bateau, ils vont s'échouer à Malte. Hein, je passe sur le contexte. Et ils savent qu'ils vont s'échouer. L'ange a dit, vous inquiétez pas, ça va aller, mais quand même. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Parce que c'était la période de grand jeûne à ce moment-là. On ne mangeait pas. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Donc ils spiritualisent ce moment. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Alors ce qui est curieux là, c'est qu'il leur dit « c'est utile à votre salut ». Alors c'est pas que c'est salutaire, mais que ça va contribuer à leur spiritualité. On dit c'est un peu mystérieux ce moment. Ils sont en danger de mort, ils vont rompre le pain, et il leur dit, voilà, c'est utile à votre salut. Ça va contribuer spirituellement à quelque chose. Et on le voit, il n'y a pas écrit qu'ils reprennent forcément des forces, mais ils reprennent du courage. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, je pense que Paul ne dit pas ça. Moi, je me suis dit, bon, il a trouvé un prétexte pour qu'il mange quand même, puisqu'il ne mangeait pas à ce moment-là. Mais il va quand même spiritualiser ce moment. Il va dire, on va rompre le pain, on va manger. Et puis là, on va avancer pour que ce soit utile à votre salut, c'est-à-dire pour que spirituellement, il y ait un effet. Alors on peut se dire, c'est un peu bizarre ces passages où on fractionne le pain après une résurrection, avant un naufrage, ou quand Jésus voit les disciples et qu'il rompt le pain et qu'il disparaît, mais il réapparaît quand on parle de rompre le pain. Quand on met ça bout à bout, c'est assez intéressant. Alors évidemment, c'est mystérieux, et si on revient à ce que ça veut dire rompre le pain, Jésus l'a dit lui-même, hein, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et l'ordonna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'il a laissé aux disciples en fait. Mais on voit qu'à certains moments, on retrouve cette expression un peu consacrée dans la Bible, ils vont rompre le pain à certains moments qui ne sont pas du tout anodins. Un naufrage, une résurrection, et ce sera spécifié. En général, on dit « il mange » ou à la limite, c'est même pas spécifié. Là, il y a vraiment une phrase qui spécifie ce qui se passe. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça pour notre vie de foi à nous? Et pour revenir à ce chemin d'Emmaüs, à ce Jésus qui rompt le pain, qui le donne et qui disparaît, c'est comme s'il ne pouvait pas apparaître après sa résurrection, sous ces deux formes. C'est comme si ça n'avait pas de sens. Je romps le pain, je te donne un morceau de pain, mais je ne peux pas apparaître sous ces deux formes. C'est comme s'il y avait une incohérence. La forme humaine, le pain, mais le pain représente son corps. Donc s'il leur donne le pain, est-ce qu'il y a un sens à ce qu'il reste lui corporellement? Enfin, c'est très fort hein, comme pensée. Il se retrouve avec le morceau de pain dans les mains, puis il n'est plus là. Mais il est là. En fait, il est là. Il nous a donné, il s'est donné. C'est très mystérieux comme passage. Alors, nos amis catholiques, ils aiment bien toutes ces choses-là. Nous, en bons protestants, on aime bien essayer d'analyser les choses. Mais là, j'avoue qu'en regardant ces passages, ça me dépasse. Je donne un morceau de pain et puis je disparais parce que je suis là, je suis dans ce que je te donne. Et quand le pain est rompu, nous avons le Christ. Mais on n'a pas un morceau de Christ, on a tout. Il nous donne tout. Il est là, c'est mystérieux. Hein. Et pourtant, c'est ce à quoi nous aspirons par la foi. Alors là, on se distingue de nos amis catholiques qui vont faire la transformation réelle. C'est vraiment le corps, littéralement. Nous, on y passe peut-être un peu plus de mystère. C'est, tiens, il est là, mais il n'est pas là. Il est partout. Il est glorieux, mais il est là dans ma main à ce moment-là. Donc il disparaît parce qu'il est là. C'est par cette lecture que je comprends pourquoi Paul, peut-être, hein, c'est mon interprétation, dans ce bateau où il va fractionner le pain. On a besoin de savoir qu'il est là. On a besoin de savoir qu'on l'a dans nos mains. On a besoin de savoir par la foi spirituellement, il est avec nous, il nous accompagne. Quoi qu'il se passe, et il va poser quelque part ce rite-là. Alors c'est pas du tout superstitieux parce que ça engage la foi de l'autre. Quand Jésus donne le pain qui disparaît, après ça engage leur foi. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Ben, oui, dans ce pain, oui, parce que c'est son corps qui l'a donné. C'est comme si Paul avait besoin de matérialiser sa foi, et il a besoin de s'attacher à quelque chose pour réaliser que Christ est avec eux dans cette tempête. Et même si un ange vient lui dire que ça va aller, il a besoin de se rattacher à un signe visible d'une réalité invisible. J'interprète vraiment sur ces passages, hein. C'est pas clairement écrit comme ça, mais je me dis, tiens, ça aurait du sens dans ce mystère-là. C'est comme ça aussi que je comprends que peut-être après la résurrection du Tychus, il va rompre le pain. Peut-être qu'il a besoin de se rattacher à quelque chose à ce moment-là. C'est tellement fort, quelqu'un qui meurt, qui ressuscite, quelque chose qui se passe comme ça. Peut-être dans le doute, dans l'épreuve, on retrouve cette idée qu'ils fractionnent le pain. Quand ils attendent l'Esprit, ils fractionnent le pain. Quand ils se réunissent et qu'ils l'attendent, quand ils attendent la venue vraiment de l'Esprit de Dieu, ils font quoi? Ils fractionnent le pain. Ils ont besoin de se saisir de sa présence par la foi. Alors ça nous met en garde parce que c'est vrai que les catholiques ils vont se dire ben, ça se transforme, c'est presque magique. Nous on se dirait ben non, on le saisit par la foi que le Christ est là. Mais quand même il est là, mystérieusement. Là ça sort de nos petites doctrines, de nos boîtes. Ça sort vraiment de tout ce qu'on peut penser, ça nous dépasse complètement. D'avoir un signe visible et la foi de croire que dans un signe comme ça, le Christ est partout glorieux, mais
de façon plus particulière dans ma main et après dans mon corps. Peut-être pour se dire, je n'ai peut-être pas ressenti sa présence à tel instant, mais je crois qu'il est là et il va me donner peut-être ce morceau de pain, son corps pourrait m'aider à l'appréhender. Le signe visible d'une réalité invisible. Ça nous rappelle aussi que quand on prend la Sainte-Cène, le pain, ce n'est pas un bout de corps inerte. Souvent, on se dit, il est mort, c'est son corps, on le prend. C'est le Christ ressuscité. C'est sa vie, c'est sa puissance, c'est tout ce qu'il y a derrière. Le pain, ce n'est pas un bout de corps inerte. C'est tout le Christ ressuscité avec toute sa puissance et sa vie en moi. Et au-delà de dire, effectivement, c'est l'alliance conclue, la nouvelle alliance conclue dans le pain et le vin, c'est tout simplement pour dire, ben, il est là. Christ est là, quoi. Il est là. Et en tout cas, je vois que même dans l'Ancien Testament, les Hébreux se rattachaient des fois à des rites pour s'aider à se rapprocher de Dieu. Pas le rite en tant que tel, c'est pas une fin en soi, mais de se dire, j'ai besoin d'un signe à un moment donné sur lequel me rapprocher, qui me renvoie à quelque chose de plus grand, à des moments de crainte, des moments de défi et d'épreuve, j'ai besoin de me rattacher. Et j'ai besoin, en fait, peut-être encore plus à ces moments-là, d'une part de mystère. Peut-être qu'au moment où ça ne va pas, je n'ai pas besoin d'expliquer Jésus. Il faut que ce soit mystérieux, il faut que ça me dépasse. Et c'est typiquement des actes prophétiques qui nous dépassent. Là, on sort de ce qu'on peut appréhender. Le Christ infini, Dieu, et qui donne son corps, et qui se donne comme ça, et pas sous deux formes. Je te donne le pain et puis je disparais parce que tu dois croire que je suis là, que je suis toujours là. C'est pour ça que je dis que c'est rien de superstitieux, parce que ça engage complètement notre foi. Pour l'un, il peut être là, et pour l'autre, non. Mais il donne à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs un bout de pain, mais ce n'est pas un bout de lui-même, il se donne, tout simplement. Et puis il disparaît dans ce mystère, et c'est à eux de le saisir. Et puis une autre chose, c'est qu'au moment où ils prennent ce pain dans leurs mains, ils le reconnaissent. Il leur a fait tout un discours sur qui il est dans les Écritures, mais c'est au moment où ils prennent ce pain qu'ils le reconnaissent. Ça rend très humble. Au moment où ils saisissent le Christ par leurs mains, qu'ils le touchent, c'était toi. Ok, c'était toi. Donc là aussi, il y a une part de mystère qui dépasse peut-être nos doctrines, qui dépasse nos attentes de Dieu. Alors évidemment, si Jésus leur explique les Écritures, c'est super. Mais finalement, ce qui rend humble, c'est que quand ils prennent ce pain, ah, c'est toi en fait qu'on est en train de prendre. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien ces parts de mystère dans la foi. J'aime bien ne pas tout expliquer. J'aime bien me dire, bah là, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça me dépasse complètement. Pas du tout dans la superstition, mais vraiment dans l'acte prophétique de se dire, au travers d'un signe visible, je peux me saisir du Christ d'une autre façon, d'une façon particulière qui est propre à chacun en plus. C'est vraiment propre à chacun en fonction de nos attentes. Ce que je retiens de ça, c'est que Dieu est très humble. Jésus a une humilité déconcertante. Il donne un morceau de pain et disparaît. Voilà tout le mystère du Christ dans un signe visible, mais vous savez que je suis invisible et infini. Il accepte de nous donner des actes prophétiques. Ça, c'est quelque chose de fort, je trouve. Il accepte de nous donner des actes prophétiques visibles pour se rattacher à lui. Et il accepte de venir en chair et en os, comme il dit à ses disciples, pour s'abaisser à eux et pour qu'ils puissent l'appréhender. Pour qu'ils puissent le voir et le toucher, parce qu'ils en ont terriblement besoin à ce moment-là. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est quand la dernière fois qu'on a touché le Christ, qu'on allait le prendre, qu'on allait le saisir, qu'on s'est approché de lui dans ce mystère, pour m'aider dans ma foi, pour me rassurer. Il y a des fois, dans ce que je fais dans les unités, je peux avoir peur. Alors, je ne dis pas que je sors un bout de pain. Ce n'est pas du tout ça le message. Mais des fois, eh ben, je vais prendre la scène et je vais me rattacher au Christ comme ça. Et ce qu'a fait Paul dans le bateau, je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il avait en tête, mais moi, en tout cas, ça m'aide de me dire, ah, il est là, en fait, mystérieusement. Et puis dans mes mains, il se fait à moi, à ma mesure, à mon échelle, il est là. Il est si humble. un Dieu infini qui s'abaisse dans une incarnation, dans un corps, et puis, spirituellement parlant, mystérieusement, dans du pain, juste pour un signe. Et puis nous, on est si petits et on le rejoint par ces signes-là dans l'infini. Je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, ça nous dépasse. Ça nous rappelle qu'il faut qu'on soit dépassé par Dieu. Il faut qu'il y ait une part de mystère dans notre foi. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qu'on vit dans sa présence et il l'apporte comme ça. Alors le message, ce n'est pas de dire « faisons la fraction du pain plus souvent ». Mais c'est de se dire que Jésus aspire à se rendre visible. Et il utilise différentes façons. La Sainte-Cène, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'actes prophétiques par lesquels on peut aller le toucher, on peut aller le rejoindre. Il veut qu'on le recherche de différentes manières et il le fera de telle sorte que ça nous dépasse. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le message aussi, c'est que quand Jésus leur donne ce pain, un bout de pain, il leur donne toute sa personne. Et c'est peut-être un appel aussi à nous lui donner toute notre personne. Lui, il donne tout. Dans ce pain, il y a tout le Christ, mystérieusement. Il est infini, tout ça, mais symboliquement, je te donne qui je suis. Il y a tout là. Et tu vas en plus, tu vas le manger, tu vas ne faire qu'un. Et il y a peut-être cette aspiration à se dire, il faudrait que je lui donne tout moi aussi. Pas de façon légaliste, mais vraiment dans cette attraction de ce mystère, de sa présence, de se dire, il me donne tout, et bien moi aussi je vais tout lui donner. Une communion à 100% des deux côtés, et pour connaître le bonheur de sa présence. Le message, c'est que Dieu est prêt à s'abaisser jusque dans nos mains, dans nos petites mains humaines. Il est prêt à dire, là vous avez le Christ, symboliquement, on n'est pas catholique, mais il est là partout, mais à ce moment-là de façon particulière. À ce moment-là, il est là de façon particulière. Je ne sais pas comment ça résonne en vous. Mais à ce moment-là, je vais le saisir différemment de tous les autres moments. Le message, c'est aussi que Jésus veut qu'on sache qu'on peut vraiment s'appuyer sur lui. C'est ça. Quand il veut se rendre visible et présent, c'est pour dire « Je suis là, n'aie pas peur, réjouis-toi ». Je suis là et je vais te donner peut-être des choses sur lesquelles te rattacher. Et il est prêt à venir comme ça. Et puis le message, c'est que sur ce chemin d'Emmaüs, c'est lui qui se donne aux disciples. C'est lui qui rompt le pain et c'est lui qui se donne. C'est toujours lui qui se donne. Même si nous, on le fait, ça reste quand même le Père qui nous donne son Fils. C'est lui qui se donne complètement. C'est lui qui fait cet acte. Je veux me donner à toi. C'est symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Je veux me donner tout entier à toi. Dans ce mystère. Et voilà, je suis là. Comment ça résonne en vous, ça? Ces passages un petit peu mystérieux, comment ça résonne? Saisir le Christ dans des actes comme ça. Nous qui sommes si loin des rites, de se dire, ben là, il y a un moment donné où on va le saisir prophétiquement comme ça. Alors, il y a vraiment ce verset que je vais relire. J'ai vraiment à cœur qu'il nous inspire dans ce mystère-là. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il, Jésus, prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Mais il n'est pas moins là. Je suis dans tes mains, en fait. C'est ça qu'il était peut-être en train de leur dire. Je suis là. Ah, mais c'est mystérieux. Tu es devant nous, tu disparais, et puis tu nous donnes ton corps. Et finalement, après tous ces échanges que Jésus a eus avec eux, je le répète, c'est quand ils se saisissent de lui qu'ils ont une révélation. C'est quand c'est lui qui a une révélation. Ça aussi, c'est humble, hein. On se dit, ben nous, moi quand j'explique quelque chose à quelqu'un, j'aimerais qu'il ait une révélation. Mais c'est quand il touche du doigt le Christ que là, il y a la révélation qui vient. Quelle humilité de se dire que Jésus, il est face à l'incrédulité de ces gens, de ses disciples, de ses amis. Il est face à des cœurs durs, il leur explique, ils ne comprennent pas. Allez, maintenant je vais me donner et puis vous allez comprendre. C'est dans son corps qu'on a la révélation divine. Ça, c'est extraordinaire. C'est dans son corps qu'on a les révélations. C'est en lui et ce n'est pas ailleurs. C'est extraordinaire. Il y a vraiment cette idée de communion à 100%. Et moi, j'ai envie de dire, ne tentons pas de l'expliquer forcément, mais gardons et chérissons ce mystère de sa présence dans la fraction du pain, dans les actes de foi, de croire qu'il est là et qu'il nous dit « Je suis là, tu peux t'appuyer sur moi ». D'un Dieu qui se donne jusque dans nos mains. D'un Dieu qui se donne jusque dans nos mains. Alors, je terminerai par la citation d'un ami que j'ai appelé un jeune prêtre dans un couvent dans le nord d'Italie. Là, on discute le soir alors qu'on devrait se coucher. On est fatigué. On discute. Et puis, on parlait du Dieu qui nous dépasse comme ça. On se dit, tiens, alors, eux, ils sont dans le mystère. Ils adorent ça. Nous, on peut être frileux, on se dit « Ouh là là, moi, je ne comprends pas, je mets dans une case. » Eux, ils adorent ça. Et je lui disais, tu vois, dans cette fraction du pain, il y a vraiment ce mystère du Dieu qui nous dépasse. Et il dit « Oui, mais Jésus se donne à nous, en fait, à ce moment-là. Il se donne à nous. » Il dit « Nous, on a une expression, on ne dit pas « Dieu nous dépasse. » On dit « Dieu est infiniment compréhensible. » Dieu est infiniment compréhensible. Il veut se faire connaître à 100%. On ne pourra jamais totalement le connaître, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Quand il donne son corps, quand il donne symboliquement, spirituellement, et j'ai envie de dire mystérieusement aussi, parce que ce n'est pas juste un symbole, il veut qu'on rentre dans cet infini-là, dans ce mystère-là. Le message, c'est de dire, laissons-nous dépasser et laissons une place de mystère dans notre foi, de cette action spirituelle qui se passe. Il y a vraiment des choses qui se passent dans ces moments-là. Pas de façon superstitieuse, mais dans des actes prophétiques de foi. Moi, je le vois dans les échanges que j'ai dans l'armée, les gens qui me demandent plein de questions. Et puis, en fait, ça ne dérange pas les gens la part de mystère aussi. Ils aiment bien se dire « il nous dépasse, je ne peux pas tout expliquer ». Mais si tu rencontres le Christ, s'il vient en toi, tu vas voir. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous dépasses. Tu nous dépasses complètement. Et il est bon que tu sois bien au-delà de notre compréhension. Il est bon que tu te manifestes de façon qu'on ne peut pas toujours expliquer, qu'on ne peut pas toujours quantifier. Et merci de nous avoir donné des signes visibles. Merci de nous avoir donné la fraction du pain. Pas comme un rite, mais comme une invitation à rentrer dans ton mystère infini. Dans ta présence, dans ta gloire, dans ton amour. Merci parce que tu nous dis que tu te donnes à nous complètement, à 100%. Il n'y a pas une miette qui reste derrière. Tu nous donnes un bout de pain et tu es là, il y a tout. Et il y a tout là. Il y a tout toi. Et Seigneur, on veut te dire, on t'accueille à 100% dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. On te dit oui. On veut accueillir ton corps, ta présence dans chaque domaine de nos vies. Te demande de nous renouveler, de nous faire du bien. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos pensées. Renouvelle notre intelligence. Il n'y a que si on te touche, Seigneur, qu'on verra des choses. Il y a les explications, mais il y a toi. Il y a toi, il y a ta personne. Et on t'adore, Seigneur. On t'adore. On adore ta présence. On adore qui tu es. Et que tu te présentes devant nous comme ça, si humblement devant nous. Tu es si glorieux. Tu es extraordinaire. Et merci pour ces signes, Seigneur. Renouvelle-nous de la tête aux pieds complètement. Qu'on ne ressorte pas d'ici, de cette pièce, sans accueillir un autre mystère de toi, sans accueillir une autre façon de te ressentir et de te vivre, Seigneur. Pas comme un rite, mais comme une vie qui jaillit de nous. Et Seigneur, on ne veut pas tout expliquer. Dépasse-nous. Sois cet infini dans nous. Sois cet infini dans notre cœur, dans nos pensées. Sois glorifié, Jésus. Amen.